Bonjour. J'ai pas tout faire tomber. Alors, c'est la suite d'une longue série, comme d'habitude avec moi. J'ai prêché en juillet sur le fait de connaître Dieu personnellement. Et du coup, le témoignage qui sort là, voilà, il est assez net hein, là-dessus. L'inconvénient, c'est qu'on se dit « Ouais, mais ça, c'est un cas particulier, en fait. » Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Seigneur, il veut se révéler à nous d'une manière personnelle. Ça, c'est les trois prédications d'avant, hein. Je ne la refais pas en entier. Mais le Seigneur veut se révéler à nous d'une manière personnelle, comme il l'a fait à ce monsieur, comme il l'a fait à un tout un tas de gens, en fait, hein. Et il ne faut pas se dire, bah non, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un de normal. Déjà, je n'ai pas fait partie du Hezbollah, j'ai tué personne, je fais rien. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais on a tous autant besoin du Seigneur que ce monsieur. Et il veut se révéler à nous d'une manière personnelle, tout aussi personnelle que ce monsieur. Si on ne le connaît pas comme ça, alors il nous manque quelque chose. Il manque clairement quelque chose. Alors la fois dernière, j'avais donné quelques exemples hein, de gens qui ont connu le Seigneur. Et on avait vu qu'on avait terminé avec Abraham, hein, qui est l'exemple... Moïse, pardon, Moïse. Qui est un exemple magnifique hein, quand on le lit. Je sais plus Exode combien, j'ai pas tout repris hein, dans mes notes ici, mais de voir qui réclame que le Seigneur se révèle à lui, qui le connaissait déjà, qu'il allait à sa rencontre dans le comment s'appelle, pas dans le tabernacle, hein, mais dans la tente au départ hein, simplement, et il demande plus, et il demande encore plus, et toujours plus, et on se dit mais il abuse, mais non, parce qu'il avait compris qui était Dieu et il avait besoin de le connaître encore plus. Et on doit en être là, en fait. On doit se dire, Seigneur, je veux plus de toi. Alors, je pourrais presque m'arrêter là, hein, mais on va voir un dernier élément qui, je pense, est du coup un peu assez concret pour nous. Dans cet aspect-là, en fait, qu'est-ce que moi, je peux y faire, finalement, en dehors de demander au Seigneur? Je pense qu'il y a une chose importante qu'on peut faire, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, l'idée, c'est en tout cas, ça reste... À nouveau, hein, j'insiste lourdement, mais de connaître le Seigneur personnellement et de pas simplement avoir une religion. Ce monsieur-là, il s'est pas converti à une religion. Hein. Doctrinalement, il comprenait rien du tout au début. Et après, il a appris avec la Bible. Mais voilà, on peut être complètement à côté de la plaque en étant dans la bonne religion, avec la bonne doctrine, tout ça, parce qu'on connaît ça que dans notre tête et qu'il s'est pas révélé à nous. Donc il nous faut plus, il nous faut sa révélation personnelle. Alors, on peut dire, mais moi, qu'est-ce que j'y peux? Alors, dans un sens, rien, parce que le Seigneur, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et c'est pas moi qui vais lui forcer la main en quoi que ce soit. Mais en même temps, j'ai un travail à faire. Mais en même temps qu'il est souverain, il y a des choses que je sais qui vont gêner. Et donc, je peux me mettre devant lui et dire, ben voilà, Seigneur, ces choses-là, je veux m'en débarrasser. Je veux régler ces choses-là, parce que je sais que ça me gêne dans la communion avec toi. Alors, pardon, j'avais pas lu Philippiens 2. Dans Philippiens 2, ça traduit juste ce dilemme hein, de c'est Dieu qui fait tout, c'est lui qui décide de tout, c'est même lui qui met la bonne volonté en nous, mais en même temps j'ai un travail à faire. Il est intéressant. Hein. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est, donc là, on voyait, hein, travaillez à votre salut, on a quelque chose à faire. Et car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça, on en a discuté longtemps le mardi soir. Hein. Mais voilà, c'est lui qui produit en nous, même le bon vouloir en nous, en fait, c'est lui qui le produit. Mais quand même, il attend qu'on travaille et il attend de nous une bonne volonté. Il y a une espèce de cercle vertueux, là. Donc, on a déjà donné des exemples. Je répète aussi hein, ce... Un livre qui m'a touché beaucoup, c'était le livre « À la poursuite de Dieu » de Tozer. Bon, j'ai regardé Amazon et tout ça, on ne le trouve plus en fait. En français, en tout cas, on ne le trouve plus en version papier. Voilà, donc si quelqu'un a les moyens de le lire sur un écran quelque part, je peux lui envoyer. Il est libre de droit depuis longtemps. Mais voilà, moi, je ne l'ai qu'en format numérique pour une liseuse. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, il est bien. Alors, on a parlé la fois dernière de Paul. Je continue juste rapidement sur Paul. Hein, c'est le premier exemple que je vais redonner. Donc, je suis assez lourd hein, là-dessus, mais je pense que c'est important de multiplier les exemples pour montrer que c'est pas un ou deux cas particuliers par-ci, par-là. C'est pas juste, bon, Moïse, voilà, était spécialement... préparait pour une mission, donc lui, il y avait une révélation qui allait avec. Non, non, c'est une révélation que Dieu veut pour tout le monde, absolument tout le monde. Et si finalement on épluche tous les hommes de Dieu, on se rend compte qu'ils sont tous passés par ces étapes-là. En tout cas, qu'ils sont tous passés par une révélation personnelle de Dieu. Donc Paul, on a dit, hein, il a subi, la fois dernière je l'avais dit, il a subi tout un tas de trucs. Hein. Il a dit, j'ai été lapidé tant de fois, j'ai fait naufrage tant de fois, j'ai subi 40 coups moins 1, enfin, et il nous fait une longue liste de choses qu'il a subies. Et pourquoi il a subi ça? Pour sa foi en Dieu. Comment il a tenu? Pas juste parce qu'il était bon doctrinalement. D'ailleurs, pas du tout parce qu'il était bon doctrinalement. Il a tenu juste parce qu'il avait une révélation du Seigneur. Vous savez, hein, sur le chemin de Damas, le Seigneur, il arrête brutalement. Alors c'est vrai que pour certains, il est obligé d'y aller brutalement. Hein. On voit ce monsieur-là, ça a été assez radical. Des fois, pour nous, c'est pas aussi brutal que ça. En tout cas, ça fait peut-être moins mal, je sais pas. Mais quand même, il nous arrête sur le chemin qu'on a pris et il se révèle à nous. Et en Philippiens 3, il faut que j'arrive à pas être trop devant. Prenez garde, Philippiens 3, versets 2 à 6. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alors, on avait une longue liste de choses qu'il a subies, on a une longue liste de choses qui pourraient mettre en valeur Paul, en fait, et se dire, bah voilà, moi, j'ai le pédigré qu'il faut pour suivre le Seigneur, en fait. J'ai fait tout ça pour le Seigneur. De par ma naissance, simplement, j'ai aussi ces choses-là. Et c'est ce qu'on a revu aussi le mardi soir, dans Romains 9. Notre naissance, ça ne nous apporte rien pour le Seigneur. Rien. Parce que sinon, ce ne serait pas juste. Il y en a qui seraient nés avec un favoritisme, quelque part, et d'autres qui ne l'auraient pas. Donc le Seigneur ne se base pas sur notre naissance pour se révéler à nous. Il se base juste sur sa grâce. Et donc cette longue liste que Paul y cite ici, on pourrait dire bah c'est vachement bien, quoi. C'est son CV, il y a un CV béton pour être devant le Seigneur. Et la suite de ça, donc les versets 7 à 11, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. » À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Longue phrase à la Paul, hein. Mais voilà. Toutes ces choses, il nous dit, et je crois que le vocabulaire, il est important, en fait. Il ne nous dit pas « c'est de la boue, c'est rien, ça n'a pas de valeur ». Ça a une valeur, en fait, mais il le regarde comme une perte. Alors, si on souligne, hein, il dit « je les ai regardées comme une perte », il dit « j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue ». Donc, ça ne dit pas que c'est des déchets, que ça n'a aucune valeur, hein. Parce que d'ailleurs, ça... Ces choses qu'il a citées avant, ça lui sert en fait après dans sa vie. Quand il se retrouve dans une synagogue, quand il se retrouve à discuter avec des juifs, tout ça c'est des éléments qui sont importants en fait. Ça lui donne une forme de crédibilité à leurs yeux. C'est ça aussi qui fait qu'il a été enseigné après et qu'il était capable de comprendre la parole et de l'expliquer d'une manière que personne d'autre n'a fait. Donc ça avait une valeur. Mais pour que le Seigneur puisse les utiliser, il doit les regarder comme une perte. Comme une perte. Vous savez que sur votre compte en banque, quand c'est en moins, c'est une perte. Voilà. On ne les aime pas beaucoup, ces chiffres-là, mais bon. On a souvent plus que des chiffres en plus. Hein. C'est comme ça. Il dit, j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Donc, il y a vraiment un acte de sa part de regarder, de renoncer, de considérer. Et ce comme une perte, comme de la boue. Ça nous montre que c'est vraiment un état d'esprit à avoir, en fait. Hein, et se dire, voilà, ces choses-là, je les considère comme ça. Et bien sûr qu'après, le Seigneur, il ne lui a pas retiré tout ça. Hein. Le Seigneur, il ne lui a pas retiré sa famille, sa naissance, ce n'était pas possible. Et il s'est servi de ça. Mais il fallait d'abord que Paul les considère comme une perte. Et la raison de tout ça, en fait, c'est ce qu'il dit lui aussi, hein, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, et afin de connaître Christ. Donc il y a un passage comme ça qui est obligé pour connaître Christ, il faut regarder tout le reste comme une perte, comme de la boue, comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Et je dis bien regarder comme, d'accord? Alors pour nous, c'est quoi toutes ces choses-là? Il peut y avoir une infinité de choses. On a chacun les choses qui pourraient avoir une valeur pour nous. C'est rarement notre naissance. Hein. Nous, on n'est pas fils de président, de roi ou de je ne sais pas qui. Ça peut être nos loisirs, quand on a assez de temps pour en avoir. Ça peut être notre boulot. Il y a des gens qui s'accrochent au boulot et pour qui on a l'impression que c'est la seule valeur. Ça peut être notre famille, nos amis. Notre compte en banque, ouais. Notre énergie, notre temps, il est précieux aussi. Hein. On voit que le malin, il essaye de prendre tout ça à notre époque. Et c'est que ça a une valeur, sinon il s'y attaquerait pas, en fait. Hein. Donc il y a tout un tas de choses et c'est propre à chacun, en fait. Hein. On s'attache chacun à des choses différentes. Tout le monde n'a pas la même valeur, en fait. Hein. On parlait anniversaire tout à l'heure. Moi, mon anniversaire, il n'y a pas de valeur pour moi. Je le considère pas comme un jour particulier. C'est comme ça, ça surprend certains. Mais moi, je fonctionne comme ça depuis des années et ça me pose aucun problème. Et on nous dit dans la parole, il y en a qui considèrent des jours comme étant particuliers, il y en a d'autres non, et puis c'est comme ça. Voilà. Donc on n'a pas tous, voilà. C'est-à-dire, pour certains, l'anniversaire, ça a une importance. Pour d'autres, non. Alors des fois, ceux qui n'accordent aucune importance à leur anniversaire, faut faire gaffe à ceux qui en accordent plus que nous, vous savez. On sent le vécu, c'est bon. Peu importe en tout cas ce qui a de la valeur pour nous, on doit le considérer comme étant sans valeur pour gagner Christ, en fait. Par rapport à la connaissance de Christ, ça n'a pas de valeur. Alors, c'est Paul aussi, en 2 Corinthiens 6, qui dit « Nous sommes regardés comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Donc finalement, il avait tellement bien mis en application ça, que les gens se disaient effectivement, Paul, il a rien, il a plus rien, il a tout perdu pour Christ. Mais il avait tout parce qu'il avait Christ. Et c'est ça cet échange qu'on fait en fait. Hein. Alors c'est pas une question d'achat, de vente, de commercial, hein. On n'est pas en train de dire, je vais donner tout ce que j'ai, comme ça je gagne le Seigneur. Mais, il faut que je regarde ma vie, en fait, et que je me dise qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut enlever. Et en fait, c'est tout. C'est juste, il ne faut pas se dire, ouais, bon, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Non, le Seigneur, il veut tout retirer pour prendre toute la place. En 2 Corinthiens 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » C'est intéressant de voir que c'est lui qui dit ça, hein, et qui dit que tout ce qui pouvait avoir de la valeur, je l'ai considéré comme une perte. Mais il est riche dans le Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de sa famille, de ses amis, tout ce qui peut avoir de la valeur pour nous, d'accord? Mais ça veut dire qu'il faut le considérer à sa place, et il faut dire, voilà Seigneur, je te le donne. Pour moi, c'est dans tes mains en fait, c'est plus ma valeur à moi. Et lui, il en fera quelque chose. Il ne faut pas s'inquiéter non plus, pour se dire, ouais, il faut que je lâche les choses, mais bah ouais. Mais il rend les choses dans beaucoup de cas, en fait. Hein. Et nous, on a peur de lui donner. Mais il nous rend les choses d'une manière différente. Il les sanctifie. Alors, vous dites, ouais, bon, Paul, il est spécial. On fait encore une fois un cas particulier entre Moïse et Paul. Forcément, nous, on n'est pas à cette hauteur-là. Donc, est-ce que Paul, c'est le seul exemple? Non. Ben non, vous doutez, sinon j'aurais terminé et il est trop tôt. Matthieu 19, vous vous souvenez de l'homme riche, hein? Lui, il y a du bol, il était riche. Il y a du bol. Est-ce que c'est vraiment du bol d'être riche? Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, donne tout. Débarrasse-toi de tout et suis-moi. Et puis, il est parti triste parce qu'il avait beaucoup de choses. C'est pour ça que ce n'est pas tant de bol que ça d'avoir des richesses. C'est pour ça qu'on est quelque part défavorisé d'être dans un pays comme le nôtre où on ne subit pas la même persécution qu'ailleurs. Parce que si on prend des... Il y a des gens qui perdent tout à cause de la persécution. Et bien du coup, ils n'ont plus besoin de se débarrasser de ça, en fait. Le Seigneur, il utilise ça. Et ce que disait Manu juste avant, il utilise les épreuves pour nous épurer. Il utilise les épreuves pour retirer des choses et pour nous, pour nous faire grandir en fait en lui. Et les chrétiens persécutés, ils ont cette chance-là quelque part qu'on n'a pas, de rien avoir. Et du coup, bah, ils n'ont pas grand-chose à regarder comme une perte en fait. Alors jeune homme riche, ouais, c'est aussi un cas particulier quand même. Nous, on n'est pas riches, donc c'est pas pour nous. Ça va. En Luc 14, verset 26, Jésus, il dit « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » La famille, les amis, et sa propre vie, en fait. Hein. Là, il va jusqu'au bout du concept, Jésus, et c'est pas un concept philosophique, hein. C'est juste que c'est une règle spirituelle, en fait. Si on garde des choses dans notre cœur, c'est une place que le Seigneur il n'a pas. Donc le Seigneur il est obligé de faire toute la place, pour prendre toute la place lui. Et lui après il reprend ces choses-là en lui, c'est pas grave. Alors, je vous rassure en disant il nous redonne les choses. Il y a quand même des cas où le Seigneur il rend pas les choses, hein, parce qu'il en a décidé comme ça. Mais on a lui à la place en fait. Dans la suite de ces versets-là, Jésus il dit, hein, vous connaissez le passage, je crois que je l'ai pas mis dans le diaporama. Jésus il dit, qui d'entre vous part à la guerre sans vérifier s'il peut aller contre son ennemi avec tant d'hommes? Et qui d'entre vous y bâtit une tour sans regarder s'il a de quoi la bâtir? En fait, qu'est-ce qu'il nous dit là, juste après ça? Il dit, bah il y a un coût en fait pour me suivre. Il y a un coût qui est tout de votre vie. Et donc faut le considérer ça. C'est vrai que nous dans le milieu évangélique on dit facilement, j'ai donné ma vie au Seigneur. Bon, je lui ai donné ma vie, mais j'ai gardé ça, 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 ça et ça. Bon, bah donc, je ne lui ai pas donné ma vie. L'important, c'est ça, en fait. Hein. C'est de renoncer à tout pour gagner le Seigneur. Donc, ce n'est pas limité à l'homme riche, ce n'est pas limité à Paul. C'est pour tout le monde, en fait. Hein. Si on veut être son disciple, on doit évaluer le coût et comprendre qu'il faut tout lâcher, en fait. C'est pas une leçon que je vous donne, hein. C'est une leçon que j'ai pris moi-même aussi dans la figure. Et il y a des choses qui sont identifiées, en fait. Après, c'est le travail avec le Seigneur, dire, ok, Seigneur, en fait, je crois qu'on le sait. Je pense qu'on sait, en fait, ce qui coince quand c'est comme ça, pour beaucoup de situations. Si on regarde notre vie, on voit rapidement les choses qui coincent et dit, c'est vrai que, Seigneur, ça a pris trop d'importance pour moi. Et on sait qu'en fait, il faut s'en débarrasser, il faut renoncer. Des fois, il faut renoncer juste sur le principe, hein, dire « Ok, Seigneur, je te le laisse. » Et le Seigneur va dire « Ok, c'est bon, mais tu peux garder, mais tu as fait le principe de me le laisser. » Des fois, il va le retirer complètement. Alors, la fois dernière, on a parlé... Ah bon, c'était... Bah, si, je l'avais cité. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc c'était la suite. Donc il y a Luc 14, 26 où il disait, voilà, faut renoncer à tout pour être mon disciple. Il dit après, évaluez bien vos dépenses, parce que celui qui veut bâtir une tour, il regarde bien avant s'il a ce qu'il faut. Pareil pour la guerre. Et il reclôture encore ce paragraphe en disant, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est un avertissement pour nous. Hein. Je fais les choses dans l'ordre, ça va mieux. Donc Job et Moïse, je m'attarde pas longtemps dessus, hein, parce que j'en ai parlé la fois dernière. Mais la fois dernière, j'en ai parlé comme ils ont fait une rencontre avec le Seigneur, et ils ont eu faim, ils ont eu soif de le connaître plus. Mais tous les deux, ils ont payé le prix, en fait. Alors Job, c'est assez facile, hein, on sait très bien que, voilà, on pourrait dire c'est le malin qui lui a fait payer le prix, mais en fait le Seigneur était encore un cran au-dessus. Et le Seigneur, il s'est servi de ce que faisait le malin pour épurer la vie de Job. Quand je vous dis le Seigneur, il redonne les choses. Il a redonné des nouveaux enfants, il a redonné des nouvelles richesses à Job à la fin. Mais quand même, il est passé par cette époque où il n'avait plus rien, même plus sa santé. Sa femme, elle l'a renié, ses amis sont partis, il a perdu ses troupeaux, ses fils, enfin tout quoi. Hein, tout ce qu'on peut retirer à un homme, on lui a retiré. Et Dieu lui avait dit au malin, il dit tu peux toucher à tout, mais pas sa vie. Et il l'a fait le malin, il l'a fait. Donc je crois que c'était le prix à payer en fait pour qu'il rencontre Dieu. Parce qu'à la fin, hein, il nous dit, Job, il nous dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Mais la condition pour ça, c'était qu'il lâche tout le reste en fait. Alors Moïse aussi. Moïse, on n'a pas cité la fois dernière ce passage-là, hein, mais dans Hébreux 11, versets 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Lui aussi, hein, il a payé un prix. Il aurait pu rester dans l'entourage du Pharaon, il aurait peut-être été le bras droit du Pharaon, il aurait eu un poste important, il était bien, finalement, voilà, un peu la situation de l'homme riche, et il a perdu tout ça, en fait, pour aller au Seigneur. Mais il a une révélation du Seigneur qui était incroyable. Et en fait, quelque part, il y a presque un lien direct, hein, la révélation du Seigneur, elle est presque proportionnelle, je ne peux pas vraiment dire ça, mais l'idée, elle est proportionnelle aussi à la manière dont on lâche les choses. Si on ne lâche pas grand-chose, on ne laisse pas beaucoup de place au Seigneur. Mais tous ces gens qui ont tout lâché, eh ben, ils ont une révélation complète du Seigneur, en fait. Un autre exemple, Noé. Noé, il est facile aussi. Hein. Je ne fais que des exemples faciles, de toute façon, je ne ferai jamais rien de compliqué. Oui, c'est ça. Genèse chapitre 6, versets 5 à 9. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est beau aussi le témoignage de Noé. Hein. Il était juste et intègre et il marchait avec Dieu. Il connaissait la présence de Dieu. Pour autant, ça, c'est avant le déluge. Et au moment du déluge, ben, c'est un peu comme tout le monde en fait. Hein. Il a embarqué quelques personnes de sa famille. Il a embarqué des animaux, mais voilà, pas forcément les siens. Hein. Il avait peut-être fait une maison, il s'était probablement construit une maison, il y avait un jardin, des champs, des possessions, des serviteurs, des amis. Il y a toutes sortes de choses, Noé. Hein. Et quand il rentre dans l'arche, il ferme la porte sur tout ça, et c'est que tout ça, c'est fini. Il a fait une croix sur tout ça, en fait, en rentrant dans l'arche. Et je me dis, ce moment où il a fermé l'arche, ça a dû être tellement dur, de dire tout ce qui est à l'extérieur, c'est terminé. C'est terminé pour les gens autour. Hein. Et c'est terminé pour ma vie aussi, en fait. C'était une nouvelle vie qu'il avait là. Il partait avec plus rien, si ce n'est ce qu'il avait dans l'arche. Et Noé, c'est l'image de quoi? C'est l'image du salut. L'arche. L'arche du salut. Pour rentrer dans l'arche, il faut laisser tout le reste. Il n'y a qu'un nombre limité de choses, en fait. Hein. Il y a plein de demeures dans la maison du Père. Mais quand même, il y a plein de choses qu'on ne peut pas embarquer avec, en fait. On est obligé d'y aller avec le peu que le Seigneur autorise. Abraham. Alors c'est un exemple qui est détaillé dans le chapitre 2 ou 3, je ne sais plus, hein, j'ai oublié les chapitres, ça ne me marque pas, c'est le contenu qui est important dans ce fameux livre de Tozer. Vous savez comme moi, hein, toujours pareil, c'est pas très compliqué ce que je dis. Abraham, il a été appelé par Dieu et il était en Mésopotamie. Il était en Chaldée et Dieu lui dit, bah, Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, ta patrie et puis va dans le pays que je vais te montrer. Super. Lui aussi, hein, quand il était avec sa famille, il avait des possessions, Abraham. Il avait probablement tout un tas de choses et Dieu lui dit, laisse tomber tout ça. Viens et suis-moi. C'est un peu la version Ancien Testament de viens et suis-moi de Jésus. Hein. Mais il doit laisser absolument tomber tout ça. C'est Genèse 12, hein. Versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc cette promesse, elle est magnifique. Nous, on reste sur la promesse. Hein. On se dit, oh, c'est vachement bien ce qu'il a reçu comme promesse, Abraham. Mais on oublie le coût qu'il a payé, en fait, le prix qu'il a payé pour tout ça. Il a dû quitter sa famille. Il n'a probablement pas dû partir en super bon terme non plus. Hein, parce que, imaginez, je sais pas, hein, quelqu'un qui a déjà qui est établi à un endroit, une grande famille, et puis l'un des fils qui dit, bah, je pars. Je quitte tout et puis bah, tu peux pas quitter comme ça, enfin, tu peux pas quitter la famille, il faut que tu restes, faudra gérer peut-être l'affaire familiale, je sais pas, il y a tout un tas de trucs possibles, mais ils ont dû dire, mais et pour aller où? Tu sais même pas encore où tu vas. Donc ça n'a pas dû être facile non plus pour Abraham. Hein. J'essaye d'imager un peu, hein, juste pour qu'on se rende compte qu'il y a un coût à chaque fois, en fait. Qu'il y a un coût qui est pas rien. Parce que si le Seigneur il nous demandait de laisser tomber des choses qui sont mauvaises, le Seigneur il dit arrête la drogue. Arrête l'alcool, arrête je sais pas trop quoi. Bah ouais, ça se comprend, puisque de toute façon ça nous détruit. Alors je dis pas que c'est facile. Hein, c'est une addiction, donc c'est pas facile. Mais on comprend, puisque de toute façon c'est mauvais. Mais là, à tous ces gens-là, c'est pas des mauvaises choses hein, que le Seigneur demande d'abandonner. Il leur demande d'abandonner tout ce qui potentiellement avait une valeur pour eux. C'est pour ça que Paul il dit, je les ai regardés comme une perte. Mais voilà, c'est la famille, c'est les amis, c'est les possessions, c'est tout un tas de choses en fait. C'est ma propre vie. Donc je ne peux pas dire ça a zéro valeur. Le Seigneur, il nous demande d'abandonner tout ce qui a une valeur. Je ne refais pas toute l'histoire d'Abraham, on fait un gros raccourci. Et vous savez qu'à près de 100 ans, il n'a toujours pas d'enfant, malgré ce que Dieu lui a dit, je vais te donner une postérité, tout ça. Et donc, Dieu, il répète sa promesse et il permet que Sarah elle ait un fils. Donc en Genèse 21, en fait, on voit la promesse s'accomplir avec la naissance d'Isaac, même s'il y a eu un passage compliqué avec Ésaü, tout ça, qu'Abraham il a été vers quelqu'un d'autre que Sarah. Voilà l'important. Ismaël, pardon. Ouais. Oula. J'aurais peut-être dû refaire toute l'histoire pour certains. Mais voilà, l'enfant qui naît, Isaac, et Abraham, il sait très bien que c'est le fils de la promesse, celui-là. Donc ce fils, il était précieux. Il était précieux et on peut imaginer Abraham qui regarde son fils qui dit oh, Seigneur, merci pour ce fils. C'est enfin cette promesse-là. C'est au travers de lui que tu vas faire ça. Et quelque part, peut-être qu'il a pris trop d'importance dans le cœur d'Abraham, ce fils. Et que si ça n'avait pas pris cette importance-là dans son cœur, Dieu ne lui aurait pas demandé de le sacrifier. On ne sait pas, hein. On n'a pas l'ensemble, on n'a pas les détails, mais c'est une supposition qui n'est pas idiote en fait, hein. Dieu lui demande de le sacrifier. Pourquoi? Peut-être parce que ça a pris plus d'importance que la promesse elle-même et qu'il chérit son fils et que voilà, c'est monté trop haut dans son cœur et que le Seigneur dit, bah maintenant tu me le donnes. Oh. Là aussi, hein, les choses mauvaises, ouais, facile, mais donne ton enfant. Et là, c'est très concret, hein. Il ne nous demande plus ça à notre époque, hein. Mais tu prends ton enfant et tu me le sacrifies. Et là aussi, la Bible, elle est très, très. Elle est sobre, hein. Elle est très très courte, on ne sait absolument pas la tempête qui se passe dans la tête d'Abraham, mais c'est évident. C'est évident, on ne peut pas juste se dire, voilà, bon, il s'est levé le matin, il fait, ok Seigneur, je donne mon fils. Ben non, ça avait une valeur qui était énorme pour lui, énorme. Mais voilà, ça a fait son chemin, ça a fait son chemin pas très longtemps, hein, parce que quand il nous demande des choses, le Seigneur, nous on met combien de temps à s'en débarrasser? Il y a des trucs qu'on traîne pendant des années en fait, hein, littéralement. Et là, Abraham, le lendemain matin, il se lève tôt et c'est parti. Et il est décidé. Et on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui va l'arrêter, en fait. Hein, si ce n'est la main de Dieu qui lui dit stop, c'est bon. Tu l'as fait, c'est bon. Et vous voyez que là aussi, c'est sur le principe, en fait, que Dieu il se base. Dieu il se base sur le principe qu'Abraham était prêt à le donner et que dans son cœur, c'était fait. Et il l'arrête là. Il n'a pas été jusqu'au bout. C'est bien, hein, parce qu'il y en a un autre qui a été donné comme ça en sacrifice. Hein, c'est l'image de Jésus. Et lui, Dieu, il a été jusqu'au bout. L'objectif n'était pas le même. Je passe pas les diapos en même temps, alors vous pouvez pas suivre. Voilà, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est une épreuve, c'est bien que c'est pas facile. Hein. Si c'était décidé facilement, ce serait pas une épreuve. Dieu dit, bah, vas-y, offre-moi un mouton. Je n'ai 2000. Ça va aller. Donne-moi ton fils, ton unique, le seul que t'aies eu de Sarah. Il me répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est inouï cette violence de Dieu envers Abraham, en fait. Hein. C'est inouï. Mais des fois, il y en est obligé d'arriver là avec nous, en fait. Il est obligé d'y aller d'une manière qui nous paraît, nous, violente. Mais pourquoi? Parce que ça a pris sa place, en fait, dans notre cœur. Et ce qui prend sa place, ça doit être traité comme tel, avec violence, avec la sainteté de Dieu qui ne peut pas tolérer ça, en fait. Et pourtant, Abraham y était proche de Dieu à ce moment-là. Vous voyez que c'est... Ça n'empêche pas, en fait. Et quelque part, quand on entend les témoignages comme ce monsieur tout à l'heure, comme plein d'autres, en fait, hein, c'est des gens qui avaient déjà connu Dieu, probablement plus que ce que nous on connaît. Et le Seigneur, il dit, eh ben, lâche ça encore. Lâche ça encore. Et après, ils l'ont connu encore plus fort que ce qu'il avait connu, encore plus personnellement. C'est pour ça que Jésus nous prévient et qu'il nous dit, mais regarde le coût que ça a, sois prêt à le payer. Parce que le coût, il est énorme. Ah, je fais tout dans le désordre ce matin. Genèse 21, 22, en fait, ça c'est avant. Hein. Mais on voit le... Enfin, ouais, ça c'est avant. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, son chef de son armée, parla ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Donc, vous voyez qu'avant même ce sacrifice, Abraham, il y avait déjà ce témoignage-là auprès des nations. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et pourtant, il manquait quelque chose. Ou il y avait quelque chose de trop, en fait. C'est pas qu'il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose de trop dans le cœur d'Abraham par rapport à son fils. Vous le connaissez par cœur. Hein. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc c'est ce que le Seigneur il nous demande, c'est ça en fait. C'est dur hein, comme message. Je vais pas repartir très joyeux, mais ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup. Tous les grands hommes de Dieu, ils sont passés par là. Et c'est pas qu'on doit avoir de l'orgueil de dire je veux être un grand homme de Dieu, je veux juste connaître Dieu comme il faut le connaître en fait, comme lui il veut se révéler. L'ange de l'Éternel, Jésus, appela, probablement, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est pour ça qu'il a eu ce renouveau de la promesse. C'est pour ça que la promesse, elle s'accomplit. Parce qu'il a obéi, parce qu'il n'a pas refusé son fils, son unique, ce qui était précieux pour lui, ce qui était probablement le plus précieux pour lui. Hébreux 11, versets 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quand on est chrétien, on se dit, ouais, moi je crois en Dieu, j'ai la foi en lui. C'est la foi qui fait faire ça, en fait. Alors est-ce que c'est cette foi-là qu'on a? Il y a un défi pour nous, hein. Quand on voit tous ces exemples, on se dit, mais il y a beaucoup plus pour moi. Le Seigneur, il attend beaucoup plus de choses. Et il veut me donner beaucoup plus de choses. Il veut se révéler. Et c'est son cœur, en fait, tout ça. Et tout ce qu'on a dans notre cœur, nous, ça le gêne, en fait. Ça l'empêche de se révéler. Donc il nous montre les choses, souvent on en est conscient, si on ne l'est pas, bah, il suffit de lui demander, hein. Il va le montrer très clairement, ce qui est bloquant. Et il nous aide après. C'est le côté positif, c'est qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Donc quand on détecte ces choses-là, on va à lui, Seigneur, il va falloir que tu m'aides, parce que forcément je ne peux pas le faire moi-même. Et il va le faire, c'est ça l'encouragement ce matin, hein, pour repartir pas trop déprimé. L'encouragement ce matin, c'est que c'est le Seigneur qui va le faire. Mais il attend encore une fois de la bonne volonté de notre part. Jacques 2, Abraham, notre père, verset 21-23, ouais, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Voilà. Il y a du niveau, hein, comme avec Moïse, comme avec Paul, voilà. Mais le niveau, il ne dépend pas de nous, de se dire, ouais, mais non, moi, le Seigneur, il ne veut pas ça. Le Seigneur, il veut ça pour tout le monde, en fait. Il veut se révéler de cette manière-là à tout le monde. C'est tout le plan de la Bible, en fait, tout le plan du salut, c'est que le Seigneur, il puisse venir en nous et puisse se faire connaître personnellement. Voilà, je pense que j'ai fait pas mal d'exemples hein, au fil des deux messages. De toute façon, on peut éplucher, hein, on peut éplucher la parole. Tous les exemples, ils vont dans le même sens, en fait, hein. Si on veut le Seigneur, il faut qu'on laisse tomber tout le reste. Et voilà, tout le reste, c'est tout ce qui a de la valeur pour nous. Donc, je vais pas être plus lourd que ça. Je voulais juste vraiment multiplier les exemples pour vous montrer que ce n'est pas des exceptions, en fait. C'est une règle générale dans les Écritures. Et si on veut avancer avec le Seigneur, si on veut le connaître comme ce monsieur dont on a entendu le témoignage, comme Rhys Owens, donc je vous bassine les oreilles depuis des mois maintenant, il n'y a pas, hein. Le Seigneur, il va purifier nos cœurs, il va épurer, il va enlever toutes ces choses-là. C'est peut-être douloureux à un moment donné, mais on repense sur les versets de Paul au début, hein. Il avait tout en fait. Il avait tout et il s'en est jamais plaint en fait. Il était parfaitement heureux parce qu'il avait le Seigneur. Et quand le Seigneur il enlève ces choses-là et qu'il vient, c'est sûr que ça fait mal, mais on sait que ça fait du bien en fait. On n'est pas maso, hein. C'est juste que le Seigneur il retire des choses et il met bien meilleur dans notre cœur en fait. Alors je veux terminer en citant un passage de ce livre de Tozer, alors qui est assez longué, donc ça fait une grande lecture. Mais voilà, je termine avec ce. C'est pareil, hein, c'est un truc du début des années 1900, donc c'est assez brutal. Souvent, c'est ce que j'ai besoin, donc voilà. Peut-être que ça se ressent, mais le Seigneur, il fait les choses assez brutalement pour certains. Des fois, il est un peu plus doux avec d'autres. Quand on n'est pas trop tête brûlée, il peut y aller un peu plus doucement. Mais voilà, quand on a du mal à entendre, bah, il y va un peu plus sèchement. Voilà, vous allez reconnaître un peu du coup cette période-là dans la manière d'écrire. Et il y a une prière qui est pareil, c'est bien parce que ça permet d'avoir des mots sur ce qu'on ressent, des mots sur ce qu'on aimerait exprimer, des choses des fois. Et c'est ça aussi le côté super des psaumes en fait, hein. C'est que ça parle pour nous, ça donne des mots sur qu'on n'aurait pas nous-mêmes en fait. Le chrétien doit d'abord se remettre entièrement entre les mains du Seigneur et ne pas tenter de trouver des justifications. Celui qui se défend n'en aura pas d'autre. Mais qu'il vienne sans défense devant le Seigneur, il aura pour son défenseur Dieu lui-même. Que le chrétien prenne conscience de toutes les ruses glissantes de son cœur trompeur et insiste sur une relation franche avec le Seigneur. Venez à Dieu avec détermination pour être entendu. Insistez pour que Dieu accepte votre tout. Les idoles de votre cœur doivent devenir spécifiques. Nommez les choses et les gens par leur nom, un par un. Si vous devenez assez sévère avec vous-même, vous pourrez raccourcir le temps de travail de quelques années à quelques minutes et entrer dans la bonne terre bien avant vos frères plus lents qui dorlotent leurs sentiments et sont tièdes dans leur rapport avec Dieu. N'oublions jamais qu'une telle vérité ne peut être apprise par cœur. C'est pas une doctrine, hein. Comme on apprend les faits de la science physique ou chimique. Ils doivent être expérimentés pour vraiment être compris. Nous devons vivre dans nos cœurs les expériences dures et amères d'Abraham si nous voulons avoir les bénédictions qui les suivent. La malédiction antique ne sortira pas sans douleur. Le vieil avare en nous ne va pas se coucher et mourir, obéissant à notre commande. Il doit être arraché de notre cœur comme une plante du sol. Il doit être extrait à l'agonie et le sang comme une dent de la mâchoire. Il doit être expulsé de notre âme par la violence, comme le Christ a expulsé des changeurs d'argent du temple. Et nous aurons besoin de nous armer contre sa pitoyable mendicité, de la reconnaître comme jaillissant de l'apitoiement sur soi-même, l'un des péchés les plus répréhensibles du cœur humain. Si nous connaissons Dieu dans une intimité croissante, nous devons aller dans ce sens du renoncement. Si nous sommes engagés à poursuivre Dieu, il nous amènera tôt ou tard à cette épreuve. Abraham ne savait pas qu'il passait un test, mais s'il avait échoué le test, toute l'histoire de l'Ancien Testament aurait été différente. Dieu aurait trouvé un autre homme, sans aucun doute, mais la perte d'Abraham aurait été tragique au-delà de la révélation. Père, je veux te connaître, mais mon cœur lâche craint d'abandonner ses jouets. Je ne peux pas m'en séparer sans saigner intérieurement. je n'essaie pas de te cacher la terreur de la séparation. Je viens en tremblant, mais je viens. Des racines de mon cœur, toutes ces choses que j'ai chéries depuis si longtemps, qui sont devenues une partie de mon être vivant, afin que tu puisses y entrer et y demeurer sans rival. Alors tu rendras glorieux le lieu de tes pieds. Alors mon cœur n'aura pas besoin du soleil pour y briller, car toi-même en seras la lumière. Il n'y aura pas de nuit là-bas. Au nom de Jésus, Amen.